Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Et je vous invite maintenant à lire quelques versets tirés du livre de Job. Nous aurions pu lire tout le livre de Job et puis arrêter là. Mais comme après tout vous pouvez faire cette lecture chez vous, j'ai quand même estimé utile de faire quelques commentaires et de ne pas lire tout ce livre. Je vous propose quelques versets du chapitre 11. Mais si vous avez un peu de temps dans la journée, vous pourrez lire les chapitres 17, chapitre 38 en particulier, qui collent bien à notre thème de ce matin. C'est Tsophar qui prend la parole et qui déclare à Job « Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle pas de réponse ?» Et suffira-t-il d'être loquace pour avoir raison? Tes bavardages feront-ils taire les gens? Te moques-tu sans que personne te confonde? Tu dis, mon savoir est sans reproche, et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres devant toi, et s'il t'annonçait les secrets de sa sagesse, qui dépassent la raison, tu saurais alors que Dieu, pour toi, laisse dans l'oubli une partie de ta faute. Peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu ou découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant? Jusqu'ici, notre lecture, qui, même dans la bouche de Tsophar, est une bonne illustration de ce que nous dirons ce matin. Nous avons besoin de comprendre, c'est-à-dire de rassembler en un tout intelligible l'ensemble de notre vie. Nous avons besoin de cohérence entre ce que nous croyons et ce que nous vivons. Et il faut bien l'avouer, cette cohérence n'est pas immédiate. Nous croyons à la vie éternelle, et il est bien probable que pourtant nous allons mourir. Nous croyons que Dieu nous a sauvés, et pourtant chaque jour nous faisons l'expérience de la souffrance. Et je pourrais allonger cette liste. Aux questions plus ou moins douloureuses que nous nous posons, les croyants qui nous ont précédés, à commencer par ceux de la Bible, ont apporté un certain nombre de réponses. Mais il arrive que nous ayons l'impression que ces réponses ne cadrent pas avec ce que nous vivons. C'est comme si, après avoir acheté une machine à laver, nous trouvions le mode d'emploi d'un magnétophone dans l'emballage. La théorie et la réalité sont décalées. Et c'est exactement l'expérience faite par Job. Job était un homme heureux, et croyait-il sans doute, heureux parce que pieux. Sa compréhension du monde était limpide, et je la résumerai très brièvement ainsi. Crains Dieu et tu seras béni. Le méchant, lui, n'échappe pas au jugement. Et dans sa vie, tout confirmait cette théologie, jusqu'au jour où tous les malheurs du monde lui sont tombés dessus. Alors Job, en raison de sa théologie, est placé devant cette alternative. Ou bien lui, Job, est méchant, ou bien c'est Dieu. Dans le premier cas, Job a ce qu'il mérite. Mais alors, s'il n'est pas méchant, en tout cas pas plus méchant qu'avant, alors c'est Dieu qui est injuste. Il y a en fait une troisième voie, et c'est cette voie que va débroussailler Job. Elle consiste à remettre en cause la théologie initiale. Les amis de Job, les porte-paroles de sa propre pensée avant l'épreuve, lui rappellent constamment dans leurs discours le bien fondé de cette sagesse. Cette sagesse est irréprochable. Elle est logique. Elles tourneront. Il n'y a pas de faille. Mais elle n'a qu'un défaut aux yeux de Job, et il n'est pas mince, c'est qu'elle ne s'accorde plus avec ce qu'il vit. Pour satisfaire la logique de ses amis, le péché étant l'explication de son malheur, il devrait confesser sa faute. Et alors, tout rentrerait dans l'ordre. Tout s'expliquerait parfaitement. Seulement, Job n'est pas plus pécheur qu'avant, du temps où il était béni. En tout cas, c'est ce qu'il prétend. S'il entrait dans la logique de ses amis, eh bien, il deviendrait hypocrite. Il nierait la réalité telle qu'il la perçoit, lui. Et c'est pourquoi, finalement, il va oser contester la théologie de ses amis. Ses amis qu'il accuse immédiatement de détruire la religion. Et c'est vrai que la révolte de Job est une menace très sérieuse pour les convictions de ses amis. Elle ébranle leurs arrangements. Elle remet en cause le système clos dans lequel ils ont, peut-on dire, enfermé Dieu. Car pour eux, Dieu est indissociable de leur théologie. Contester cette théologie, c'est se révolter contre Dieu. Eh bien, cette histoire met en évidence un danger qui nous guette tous. Pour comprendre, nous sommes amenés à généraliser. Mais, portés par notre désir de comprendre, nous sommes aussi tentés de simplifier et de prendre Dieu dans nos théologies, de l'enfermer dans nos mots et nos systèmes. En parlant de la réalité de la vie avec Dieu, la théologie simplifie inévitablement. Mais elle l'oublie parfois. Elle l'oublie en prétendant tout expliquer, tout montrer, avoir réponse à tout. Cette prétention, en simplifiant abusivement la réalité, finit par réduire Dieu à la mesure de nos pensées. Et c'est ainsi que les amis de Job ont, excusez-moi cette expression, domestiqué Dieu. Ils lui ont mis la main dessus. Ils savent où il est, comment il fonctionne, il n'y a pas de surprise à avoir. Ils l'ont enfermé dans un saint système qui les met à l'abri de toute surprise. Et on peut dire que leur sainte théologie les dispense de la foi qui croit, de celle qui fait confiance au Seigneur. Eh bien, quand la doctrine rend inutile la confiance, elle en dit plus sur le théologien que sur Dieu. Notre connaissance est limitée, constate l'apôtre Paul. Et l'expérience de l'apôtre Paul rejoint par moments celle de Job. Paul constate que sa connaissance est limitée, ce qui n'empêche pas de chercher à comprendre. Et l'exemple le plus frappant, c'est l'exemple qui nous est donné dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11. Ce chapitre explique la méthode de l'apôtre Paul. Il commence par dire sa souffrance. son épreuve personnelle. Et c'est ici l'incrédulité de ses frères de race. Il ne comprend pas pourquoi ceux-ci sont très majoritairement hostiles à l'Évangile. Et comme pour Job, les solutions à ces questions ne sont pas très nombreuses. Ou bien lui, Paul, s'est trompé finalement en suivant ce Messie. Ou bien alors, c'est que tous les autres sont rejetés. C'est que le peuple dans son ensemble n'est plus dans le plan de Dieu. Il ne choisit pas entre ces deux solutions, parce qu'aucune ne le satisfait vraiment. Et il va plus loin dans sa compréhension de l'Écriture et de l'histoire du salut. Et finalement, il va trouver un sens à ce qui le troublait. C'est ce qu'on appelle quelquefois la théologie du reste. Il finit par comprendre que, finalement, depuis le début, c'est toujours comme ça. C'est avec un reste que Dieu accomplit son plan. Il y a donc une sorte d'échappée, là, dans les ténèbres. Il perçoit de la lumière. Mais, et c'est ce qui est exceptionnel, à mon avis, chez Paul, c'est qu'il n'est pas dupe de la pénétration de sa pensée. Il sait qu'il a vu partiellement. Et c'est pourquoi il conclut « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ?» On croirait entendre Job. Mais ce qui est admirable, c'est que ces paroles viennent après des lignes d'une clairvoyance théologique exceptionnelle. La théologie de Paul n'est pas une doctrine fermée. On pourrait dire qu'au contraire, c'est une harmonie ouverte. Eh bien, l'attitude d'hommes comme Job et Paul est très importante pour nous et très stimulante. La foi de ces hommes a été mise à l'épreuve par la confrontation avec une réalité qui était indéchiffrable pour eux. Mais ils n'ont pas récusé celle-ci, ni renié Dieu. Ils ont lutté pour comprendre, même partiellement. Eh bien, nous devons nous aussi chercher, mais apprendre à ne pas avoir réponse à tout. Tout ce que nous savons de Dieu, de son amour, de sa sagesse, ce que nous comprenons de sa parole, éclaire notre vie. Et c'est cette lumière qui permet une synthèse active entre notre foi et notre vie. C'est la vie de la foi. Quand Paul écrit à la fin de sa vie à Timothée « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi », il indique là que sa marche avec le Seigneur n'a pas été de tout repos. Il a dû lutter et persévérer. Comment pourrions-nous, nous, espérer échapper à cette lutte? Confrontée à la réalité, la foi est exposée, mais elle vit. Dans cette confrontation, on peut dire que le doute s'insinue un peu comme un courant d'air qui profite de l'ouverture. Mais si pour éviter tout courant d'air, quelque doute que ce soit, on colmate toutes les brèches, eh bien alors, la foi ne respire plus. Elle se dessèche en système, il n'y a finalement plus de confiance en Dieu. En raison de ce qu'a écrit l'apôtre Jacques sur l'homme qui doute, connaissez ses célèbres paroles, qui est semblable au flot de la mer, homme partagé et résolu, le doute a très mauvaise presse dans les milieux chrétiens. Et rassurez-vous, je ne vais pas me risquer à le réhabiliter. Je voudrais seulement noter que nous ne sommes pas à l'abri du doute. Oserais-je ajouter que le doute n'est pas le signe de l'absence de la foi. Mais plutôt que de faire des considération philosophique sur les rapports entre le doute et la foi, je vous rappelle un seul verset tiré de la fin de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 17. Les 11 disciples allèrent à la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Comment est-ce possible? Ils voient Jésus ressuscité et ils doutent. Évidemment, ceux qui sont habitués à voir des ressuscités ne s'étonnent pas, parce qu'ils savaient d'avance. Mais les autres sont surpris et ils se posent des questions. Ce que je relève, c'est que si leurs doutes sont mentionnés ici, c'est qu'ils ont osé les avouer. Et s'ils ont pu les dire, c'est qu'ils n'ont pas eu peur d'être jugés et rejetés. Eh bien, il me semble que nous avons besoin de retrouver cette liberté fraternelle qui permet de faire part de ces doutes et de ces perplexités sans être immédiatement catalogués. Certains ont des doutes, mais Jésus les envoie tout de même en mission. Et il leur promet sa présence jusqu'à la fin des temps. Si nous n'avions jamais de doute, après tout, nous n'aurions pas besoin du Seigneur non plus. Ces doutes sont comme les infirmités de la foi. Nous sommes ainsi rendus attentifs au fait que chaque jour, nous avons besoin du Seigneur. Comme on oppose sans raison conversion événement et conversion journalière, il n'y a pas lieu d'opposer non plus la foi illumination, ouverture à la vie éternelle, et la foi qui se renouvelle chaque jour et qui renouvelle chaque jour. La foi n'est pas un billet de loterie qui permet d'attendre tranquillement que le gros lot soit tiré. Il y a quelquefois une insistance sur l'assurance du salut qui ferait croire que tout est déjà arrivé, qu'il n'y a plus rien à attendre, et que l'assurance repose finalement sur sa propre conviction. Bien, je suis étonné de voir que l'apôtre Paul ne montre pas autant d'assurance quand il écrit aux Philippiens. Nous pouvons relire la fin du chapitre 3. Nous pouvons aussi ajouter ce que Paul écrit justement dans le chapitre 11 des Romains, quand il met les chrétiens d'origine païenne en garde par ces mots, leur disant « Tu subsistes par la foi ». Eh bien, il montre là que la foi, c'est le souffle quotidien de la vie spirituelle. Les brèches de notre sagesse nous rappellent opportunément qu'en attendant la lumière finale, nous marchons par la foi en Jésus-Christ. Heureuse brèche. Si les amis de Job avaient une sainte théologie, Paul, lui, ne revendique rien de tel. Et pourtant, il est conscient d'avoir reçu des révélations extraordinaires. Il prétend seulement, si j'ose dire, à une saine doctrine et à une foi saine. Ce sont essentiellement Tite et Timothée qui sont exhortés ainsi à avoir une foi en bonne santé. Ce sont des textes plus tardifs, peut-être, qui expriment une pensée plus mûre. Mais comment définir cette foi en bonne santé? Bien, en m'appuyant sur le contexte, notamment sur les débuts de la lettre à Tite, je caractériserai volontiers cette foi en bonne santé par l'équilibre, la sobriété et l'activité. Une foi malade ne s'attache pas à l'essentiel, elle préfère les fables, les sucreries, et ne peut produire d'œuvres bonnes. Ça, nous le retrouvons aussi chez l'apôtre Jacques. Par opposition à une prétendue sainte doctrine, une saine doctrine est une doctrine ouverte sur Dieu, une pensée qui reconnaît ses limites, qui admet des hiatus dans sa logique et son développement. La foi selon la célèbre définition de l'Épître aux Hébreux, est la garantie de ce que l'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Cette définition est très liée à l'espérance, mais elle ne doit pas servir de justificatif à la construction d'un monde parallèle. La foi ne fait pas vivre dans un monde irréel, parce que la foi, telle que je la vois décrite, en tout cas dans le Nouveau Testament, n'est pas une fuite, jamais une fuite. Nous ne sommes pas du monde, ça nous est rappelé souvent, mais nous sommes dans le monde, et c'est dans le monde tel qu'il est que nous sommes appelés à vivre notre foi. Nous ne devons pas inventer un monde fictif où notre savoir théologique fonctionnerait sans problème. Cela arrive quelquefois. Les enfants inventent des mondes à la mesure de leur imagination, et ils séparent difficilement le vrai du faux. Les adolescents, eux, sont conduits par leurs rêves, des idéaux d'absolu. Ils se séparent, ils ne supportent plus la réalité. Les adultes, eux, ont appris à vivre dans le réel. Le passage du rêve à la réalité est l'œuvre de la maturité. Et il n'est pas étonnant que la maturité soit un thème biblique important, et pourtant souvent négligé. Et ceci, me semble-t-il, pour plusieurs raisons. La première vient certainement du vocabulaire utilisé dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament parle souvent de maturité, mais il le fait avec des termes de la racine « telos » qui signifie « fin, achèvement, accomplissement ». Nos versions ne montrent en général pas cette référence commune. Elles traduisent soit « adulte », soit « parfait » ou « perfection ». Alors, si le mot « adulte » évoque clairement en nous l'idée de maturité, il n'en est pas de même de perfection. Spontanément, en français, le mot « perfection » évoque un idéal immuable, quelque chose d'irréel, une perfection morale impossible à atteindre. La deuxième raison me paraît venir d'une tendance à dissocier la spiritualité du reste de la personnalité. Quelqu'un sera facilement considéré comme mûr spirituellement s'il connaît bien sa Bible, s'il prie et sait parler des choses spirituelles. Mais il n'est pas du tout sûr que ces critères soient bien choisis. L'exemple des Corinthiens est significatif. Ils se considéraient eux-mêmes comme des hommes spirituels. Paul les considère comme des enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent chez eux jalousie et querelle. La Bible regarde l'homme comme un tout. C'est toute la personne, dans son ensemble, qui est amenée à avoir des rapports avec Dieu et avec les autres. C'est l'homme, donc, qui est concerné par la maturité. On peut ajouter une troisième raison. S'il appelle à la maturité, à la croissance, qui est une partie intégrante du message chrétien, n'est pas très présent dans l'esprit des croyants et dans les prédications, c'est probablement parce que les résistances à la maturité psychologique se communiquent à la vie spirituelle. Alors raison de plus pour ne pas les dissocier. Mais avant d'indiquer trois ou quatre caractéristiques de cette foi de la maturité, j'aimerais attirer votre attention sur une question d'actualité. Tony Anatrella, qui est prêtre, psychanalyste et freudien, ce qui peut faire beaucoup de désavantages aux yeux de certains, qualifie notre société de société adolescentrique. L'adolescence, dit-il, est devenue l'âge privilégié de la fin du XXe siècle. Les modèles d'identification sont relatifs à cette période. On désire y accéder tôt et s'y attarder longtemps. Le processus d'identification a été inversé. Ce ne sont plus les jeunes qui s'identifient aux adultes, mais l'inverse. Dans cette société adolescentrique, la spontanéité devient un absolu. L'instantané, l'immédiat, le partiel sont plus vrais que la chose préparée, élaborée, pensée. Le langage utilisé par les jeunes et dont les adultes s'inspirent, est de moins en moins construit et tente d'exprimer un état émotionnel. La musique remplace les courants de pensée. Elle est devenue celle par qui on pense. Elle remplace la parole. L'adolescence est la période illusoire et magique du « tout est possible », tout, tout de suite, qui pourrait bien être un slogan de l'adolescence, a tendance à devenir celui de la société tout entière. Alors, que certains chrétiens, emportés par ce courant, préfèrent l'effusion, l'imaginaire à la parole, ne serait pas étonnant. Que la parole soit négligée au profit des émotions prises comme des signes de la présence de Dieu ne serait pas non plus surprenant. Pour un attrait là, le risque de psychologie contemporaine morcelée et déracinée consiste à ne pas savoir hiérarchiser les vérités et les valeurs, à convenir que tout se vaut au nom de la sincérité. Et ajoute-t-il, et j'arrêterai là cette citation, il n'est pas certain que les églises aient pris conscience des véritables enjeux spirituels de l'époque. Cette parenthèse fermée, voici quelques caractéristiques, me semble-t-il, de la foi adulte, telles que nous pouvons les voir dans le Nouveau Testament. Une foi adulte, c'est une foi qui sait pour obéir. La connaissance acquise permet de juger entre le bien et le mal, mais, dit l'Épître aux Hébreux, c'est par la pratique que le discernement s'affine. Et nous retrouvons ici la constante association entre croire et écouter, croire et obéir. La Bible n'imagine pas de foi non pratiquée. Une part du discernement consiste à distinguer l'essentiel du secondaire. Dans la foi qui est à croire, tout n'est pas sur le même plan. Eh bien, la maturité permet de hiérarchiser les valeurs et les idées et d'accepter les différences sans en faire un enjeu personnel. C'est dans cette perspective, certainement, que Paul écrit aux Philippiens « Au point où nous sommes parvenus, marchons ensemble. » La collaboration, une collaboration paisible, il me vient une citation de La Rochefoucauld, je crois, qui me paraît convenir ici, et qui dit à peu près qu'il y a une façon de tenir à la vérité qui n'est rien d'autre qu'une façon de tenir à soi. L'apôtre Jacques, dans le premier chapitre, souligne l'importance de l'endurance. Le test de la foi, dit-il, c'est l'endurance, la persévérance. Mais alors, à condition que cette endurance, cette persévérance, cette patience, comme on voudra l'appeler, soit active. Parce que la foi confrontée à l'épreuve va montrer sa maturité dans l'action. La foi ne se replie pas, elle ne s'échappe pas, elle poursuit sa route. La persévérance, c'est la foi vécue dans la réalité et dans le temps. Une vie spirituelle rêvée, idéalisée à la recherche de l'absolu en dehors du réel, est une marque d'immaturité. Mais après avoir dit tout cela, et si nous sommes bien convaincus que l'immaturité ne permet pas de recevoir une nourriture solide, n'imaginons pas maintenant que les enseignements fondamentaux soient dépassés pour les adultes que nous sommes. Luther, dans la préface à son grand catéchisme, s'en prend aux présomptueux qui se croient plus instruits qu'ils ne sont. Et il encourage les chrétiens, et particulièrement les pasteurs et les prédicateurs, à ne pas vouloir être trop tôt docteurs, en s'imaginant tout savoir. Ils doivent, dit-il, se garder de la fiente empoisonnée d'une telle assurance et de l'orgueil de se croire des maîtres. C'est que l'appel à la maturité ne vise pas à faire de nous des maîtres, mais de véritables disciples. La foi nous fait avancer, jamais précéder notre maître. Pour conclure maintenant notre parcours sur la foi, je vais vous proposer une escale rafraîchissante chez Jean. Pour essayer de comprendre quelque chose de ce qu'il a dit dans le chapitre 6 de son évangile. Qu'est-ce que croire d'après Jean 6? C'est le discours sur le pain de vie, un discours que vous avez lu bien souvent. Le discours sur le pain de vie est un de ces malentendus que Jean aime nous raconter. On pourrait presque dire que Jean, c'est l'évangile du malentendu, du quiproquo. Jean ne sait plus à relever le décalage entre Jésus et ses interlocuteurs, que ce soit sa mère à Cana, que ce soit ensuite avec Nicodème, la Samaritaine, les pharisiens, ses disciples évidemment. Le malentendu est constant. Et c'est comme s'il était finalement très significatif. Bien, le discours sur le pain de vie joue pleinement sur ce registre. Et là, le malentendu est dans l'incompréhension de la parole du Seigneur. Il voulait du pain, et Jésus leur offre son corps. Ils n'ont pas vu que le pain qu'il leur avait donné et qu'ils avaient apprécié n'était qu'une invitation à se nourrir de lui, le pain de vie. N'est-il pas la manne véritable? Jésus, après avoir multiplié les pains, espérait que ceux qu'il avait nourris auraient perçu quelque chose de la vérité. Mais ils n'ont pas vu le signe. Et voilà un grand thème de Jean, voir et croire. Sans la foi, on ne voit rien, on ne comprend pas le sens véritable de ce que Jésus accomplit. Et Jean appelle constamment à lire les événements à la lumière de l'Esprit Saint. Et en définitive, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Quand Jésus appelle ceux qui ont vu le pain multiplié et qui l'ont mangé à comprendre et à croire, bien ceux-ci vont lui demander un signe. Quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous croyions? Cette demande est encore une fois une demande étonnante. Ne viennent-ils pas d'avoir le signe qu'ils réclament? Mais il faut savoir que les Juifs d'alors attendaient du Messie des miracles plus extraordinaires que ceux de l'Exode. Jésus devait faire mieux que Moïse au désert, plus fort que la manne. L'ironie de la situation, c'est que nous savons bien que de toute façon, il ne verrait rien. Mais Jésus démystifie malgré tout les admirateurs de Moïse en précisant que Moïse n'a pas donné le pain du ciel. Si ceux qui réclamaient une nouvelle manne avaient été attentifs, ils auraient perçu l'enseignement que nous trouvons dans Deutéronome 8. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Le pain du ciel, c'est celui que Dieu donne, c'est sa parole, c'est lui, Jésus, l'envoyé du Père. Cette déclaration, par laquelle Jésus promet le rassasiement à celui qui croit en lui, n'est pas facilement acceptable pour ses auditeurs. Il le sait. Il faut comprendre que Jésus vient d'en haut. Jésus dit, vous avez vu, pourtant vous ne croyez pas. Mais c'est qu'ils ne comprennent pas qu'il vient d'en haut. Voilà encore le malentendu. N'est-il pas le fils de Joseph? Comment peut-il déclarer, je suis descendu du ciel? La contestation des Juifs qui refusent de croire donne l'occasion à Jésus de préciser que seul le Père peut les attirer et leur ouvrir les yeux. Et la première partie de son discours s'achève sur cette parole, « Celui qui croit à la vie éternelle. » Mais, et c'est sur ce point que j'aimerais attirer votre attention, le discours de Jésus ne s'arrête pas là, il va prendre même une autre orientation, beaucoup plus provocante. C'est qu'il ne s'agit plus seulement de croire qu'il est le pain de vie, mais il faut le manger. Après avoir dit, « Celui qui croit en moi à la vie éternelle », voilà qu'il déclare, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » On comprend facilement que ces paroles scandalisent. Mais qu'est-ce que Jésus a bien voulu dire là? Bon, nous connaissons les versets qui suivent. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais ceci est rappelé. Il est évident que Jésus n'a pas parlé de manger sa chair, de boire son sang, pour ne rien dire de plus que ce qu'il avait dit avant. Il dit ici quelque chose de choquant, mais quelque chose d'essentiel sur la vie éternelle, sur la vie avec lui. Il y a évidemment une allusion à la parole qui nourrit, mais il y a bien plus. Jésus, comme l'a relevé Jean, enseigne quelque chose de fondamental sur la foi et le salut. Il dit que le salut est de l'ordre de la participation, pas seulement de la connaissance. Savoir que Jésus est le pain de vie ne change pas la vie. Ce qui donne la vie, c'est la greffe sur le Christ. Vivre par le Christ, c'est être solidaire du Christ. Croire, ce n'est donc pas seulement connaître, savoir, bien que cela soit indispensable, c'est être incorporé par l'Esprit à celui qui donne la vie. Comme Jean l'indiquera d'une autre manière au chapitre 15, la vie passe du cep au sarment par la sève de l'Esprit. Ce que Jean exprime ici aussi fortement, ce que Jésus exprime ici aussi fortement, eh bien, sera exprimé aussi ailleurs dans le Nouveau Testament, sous d'autres formes. Dans les évangiles synoptiques, il est question de se renier et de prendre la croix du Christ chaque jour. Et Paul emploiera quant à lui des expressions comme « être en Christ ». C'est celui qui est en Christ qui est une nouvelle créature. Pratiquement, cela signifie que pour le croyant, la vie est indissociable du Christ. Croire, c'est savoir, marcher, vaincre, aimer, espérer. Si nous comprenons bien Jean, eh bien il me semble qu'il est impossible de croire assis, de prétendre sans agir. Croire, c'est marcher et avancer chaque jour. Ce n'est pas pour rien que Jean n'emploie jamais le mot « foi ». Pourtant, il en parle beaucoup. Par contre, il emploie 98 fois le mot « croire ». Comme pour dire, la foi, ce n'est pas une chose, ce n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas une théorie, c'est une réponse de toute notre personne au Verbe éternel. Eh bien, mon vœu, c'est que nous puissions répondre aussi à cet appel du Christ, de toute notre personne. C'est ainsi que nous croirons.